Le postmoderne, l'ironie, l'aimable. Depuis 1965, deux idées se sont définitivement clarifiées. On pouvait retrouver l'intrigue sous forme de citations d'autres intrigues, et la citation pouvait être moins conventionnelle et commerciale que l'intrigue citée. 1972, ce sera l'almanach Bompiani, consacré au retour de l'intrigue, où Ponson du Terrail et Eugène Sue seront revisités d'une manière tout à la fois ironique et éblouie, où certaines grandes pages de Dumas forceront l'admiration à peine teintée d'ironie. Pouvait-on avoir un roman commercial assez problématique et pourtant aimable? Cette soudure, ces retrouvailles avec l'intrigue et l'amabilité, les théoriciens américains du postmodernisme allaient l'accomplir. Malheureusement, postmoderne est un terme bon à tout faire. Et je pense à postmoderne comme catégorie littéraire proposée par les critiques américains, non à la notion plus générale de Lyotard. J'ai l'impression qu'aujourd'hui on l'applique à tout ce qui plaît à celui qui en use. Il semble d'autre part qu'il y ait une tentative de lui faire subir un glissement rétroactif. Avant, ce terme s'adaptait à quelques écrivains ou artistes de ces 20 dernières années. Petit à petit, on est remonté au début du siècle, puis toujours plus en arrière. Et bientôt, cette catégorie arrivera à Homère. Je crois cependant que le postmoderne n'est pas une tendance que l'on peut délimiter chronologiquement, mais une catégorie spirituelle, ou mieux, un Kunstwollen, une façon d'opérer. On pourrait dire que chaque époque a son postmoderne, tout comme chaque époque aurait son maniérisme, si bien que je me demande si postmoderne n'est pas le nom moderne du maniérisme en tant que catégorie métahistorique. Je crois qu'à toute époque on atteint des moments de crise tels que ceux qu'a décrit Nietzsche dans les Considérations inactuelles sur le danger des études historiques. Le passé nous conditionne, nous harcèle, nous rançonne. L'avant-garde historique, mais ici j'entendrai la catégorie d'avant-garde comme catégorie méta-historique, essaie de régler ses comptes avec le passé. Abat le clair de lune, mot d'ordre futuriste, et le programme typique de toute avant-garde, il suffit de remplacer clair de lune par quelque chose d'approprié. L'avant-garde détruit le passé, elle le défigure. Les demoiselles d'Avignon, c'est le geste typique de l'avant-garde. Et puis, l'avant-garde ira plus loin. Après avoir détruit la figure, elle l'annule. Elle en arrive à l'abstrait, à l'informel, à la toile blanche, à la toile lacérée, à la toile brûlée. En architecture, ce sera la condition minimum du curtain wall. L'édifice comme stèle, parallélépipède pur. En littérature, ce sera la destruction du flux du discours jusqu'au collage à la burrow, jusqu'au silence jusqu'à la page blanche. En musique, ce sera le passage de l'atonalité au bruit, au silence absolu. En ce sens, le cage des origines est moderne. Mais vient un moment où l'avant-garde, le moderne, ne peut pas aller plus loin, parce que désormais, elle a produit un métalangage qui parle de ses impossibles textes, l'art conceptuel. La réponse postmoderne au moderne consiste à reconnaître que le passé, étant donné qu'il ne peut être détruit parce que sa destruction conduit au silence, doit être revisité, avec ironie, d'une façon non innocente. Je pense à l'attitude postmoderne comme à l'attitude de celui qui aimerait une femme très cultivée et qui saurait qu'il ne peut lui dire « Je t'aime désespérément » parce qu'il sait qu'elle sait et elle sait qu'il sait que ses phrases, Barbara Cartland, les a déjà écrites. Pourtant, il y a une solution. Il pourra dire « Comme dirait Barbara Cartland, je t'aime désespérément. » Alors, en ayant évité la fausse innocence, en ayant dit clairement que l'on ne peut parler de façon innocente, celui-ci aura pourtant dit à cette femme ce qu'il voulait lui dire, qu'il l'aime et qu'il l'aime à une époque d'innocence perdue. Si la femme joue le jeu, elle aura reçu une déclaration d'amour. aucun des deux interlocuteurs ne se sentira innocent. Tous deux auront accepté le défi du passé, du déjà-dit que l'on ne peut éliminer. Tous deux joueront consciemment et avec plaisir au jeu de l'ironie. Mais tous deux auront réussi une fois encore à parler d'amour. Ironie, jeu métalinguistique, énonciation au carré. De sorte que si, avec le moderne, ne pas comprendre le jeu, c'est forcément le refuser, avec le postmoderne, on peut ne pas comprendre le jeu et prendre les choses au sérieux. Ce qui est d'ailleurs la qualité, le risque, de l'ironie. Il y a toujours des gens pour prendre au sérieux le discours ironique. Je pense que les collages de Picasso, de Juan Gris et de Braque étaient modernes. C'est pourquoi les gens normaux ne les acceptaient pas. En revanche, les collages que faisait Max Ernst, ces montages de morceaux de gravure du 19e, étaient postmodernes. On peut aussi les lire comme un récit fantastique, comme le récit d'un rêve, sans s'apercevoir qu'il représente un discours sur la gravure, et peut-être sur le collage lui-même. Si le postmoderne c'est cela, on comprend alors pourquoi Stern ou Rabelais étaient postmodernes, pourquoi Borges l'est certainement, pourquoi, dans un même artiste, peuvent cohabiter ou se succéder rapidement ou alterner le moment moderne et le moment postmoderne. Voyez Joyce. Le portrait est l'histoire d'une tentative moderne. Les Dubliners, même s'ils sont antérieurs, sont plus modernes que le portrait. Ulysse est à la limite. Finnegan's Wake est déjà postmoderne, ou du moins, il ouvre le discours postmoderne. Il requiert pour être compris non point la négation du déjà-dit, mais une nouvelle réflexion ironique. On a déjà presque tout dit sur le postmoderne dès le début, c'est-à-dire à partir d'essais comme « La littérature de l'épuisement » de John Barth, qui date de 1967 et qui a été récemment publié dans le numéro 7 de Calibano sur le postmoderne américain. Ce n'est pas que je sois totalement d'accord avec les bons points que les théoriciens du postmodernisme, Barth y compris, distribue aux écrivains et aux artistes en établissant qui est postmoderne et qui ne l'est pas encore. Ce qui m'intéresse, c'est le théorème que les théoriciens de la tendance tirent de leurs prémices. Mon écrivain postmoderne idéal n'imite et ne répudie ni ses parents du 20e, ni ses grands-parents du 19e. Il a digéré le modernisme, mais il ne les porte pas sur ses épaules comme un poids. Peut-être cet écrivain ne peut-il pas espérer atteindre ou émouvoir les amateurs de James Michener et Irving Wallace, sans parler des analphabètes lobotomisés par les masses médias. Mais il devrait espérer toucher et divertir, quelquefois au moins, un public plus vaste que le cercle de ceux que Thomas Mann appelait les premiers chrétiens, les dévots de l'art. Le roman postmoderne idéal devrait dépasser les querelles entre réalisme et irréalisme, formalisme et contenuisme, littérature pure et littérature de l'engagement, narrativité d'élite et narrativité de masse. Je préfère l'analogie avec le bon jazz ou avec la musique classique. En réécoutant ou en analysant une partition, on découvre une foule de choses que l'on n'avait pas saisies la première fois. Mais la première fois doit savoir vous ravir au point de vous faire désirer la réécouter. Ceci étant valable pour les spécialistes comme pour les profanes. Barthes en 1980 qui reprend ce thème cette fois sous le titre « La littérature de la plénitude ». Bien entendu, le discours peut être repris avec un plus grand goût du paradoxe, ce que fait Leslie Fidler. Dans un essai de 1981, et dans un débat récent sur Salmagundi avec d'autres auteurs américains. Fidler fait de la provocation, c'est évident. Il glorifie le dernier des Mohicans, la narrativité d'aventure, le gothique, toute cette masse d'écrits méprisés par les critiques, qui a su créer des mythes et peupler l'imaginaire de plus d'une génération. Il se demande si on publiera de nouveau quelque chose comme la case de l'oncle Tom, qui puisse être lu avec une égale passion à la cuisine, au salon et dans la chambre des enfants. Il met Shakespeare du côté de ceux qui savaient divertir, dans le même sac qu'autant en emporte le vent. Nous savons tous que c'est un critique trop fin pour y croire. Il veut simplement abattre cette barrière érigée entre art et amabilité. Il comprend intuitivement que toucher un vaste public et peupler ses rêves, c'est peut-être cela aujourd'hui faire de l'avant-garde, et que cela nous laisse encore libres de dire que peupler les rêves des lecteurs ne signifie pas nécessairement les bercer. Ça peut vouloir dire les obséder. Le roman historique. Depuis 2 ans, je refuse de répondre à des questions oiseuses, du style « Ton œuvre est-elle une œuvre ouverte ou pas ?»« Mais est-ce que je sais, moi ? C'est votre affaire, pas la mienne. » Ou alors « Auquel de tes personnages t'identifies-tu ? » Mon Dieu, mais à qui s'identifie un auteur ? Aux adverbes, bien sûr. La question la plus oiseuse de toutes est celle de ceux qui suggèrent que raconter le passé, c'est une façon de fuir le présent. Est-ce vrai ? Me demande-t-il. C'est probable, dis-je. Si Manzoni a raconté le XVIIe siècle, c'est que le XIXe ne l'intéressait pas. Le Sant'Ambrogio de Giusti parlait aux Autrichiens de son époque, alors qu'évidemment, le Giuramento de Pontida de Bercher parle des fables du temps jadis. Love Story est de son temps, alors que la Chartreuse de Parme ne raconte que des événements survenus 25 ans plus tôt. À quoi bon dire que tous les problèmes de l'Europe moderne se forment, tels que nous les ressentons aujourd'hui, au Moyen-Âge, de la démocratie des communes à l'économie bancaire, des monarchies nationales aux cités, des nouvelles technologies aux révoltes des paysans? Le Moyen-Âge est notre enfance à laquelle il nous faut toujours revenir pour faire une anamnèse. Mais on peut aussi parler du Moyen-Âge dans le style d'Excalibur. Et donc, le problème est ailleurs, et on ne peut l'éluder. Que veut dire écrire un roman historique ? Je crois qu'il y a 3 façons de raconter sur le passé. L'une est le romance, du cycle breton aux histoires de Tolkien, où l'on trouve aussi le gothique novel, qui n'a rien de la novelle, et tout du romance. Le passé est alors scénographique, prétexte, construction de la fable, et donne libre cours à l'imagination. Pour sa part, la science-fiction est souvent un pur romance. Le romance, c'est l'histoire d'un ailleurs. Puis vient le roman de cap et d'épée, comme celui de Dumas. Le roman de cap et d'épée se choisit un passé réel et reconnaissable. Pour y parvenir, il le peuple de personnages déjà enregistrés par l'encyclopédie, Richelieu, Mazarin, auxquels il fait accomplir des actions que l'encyclopédie n'enregistre pas. Avoir rencontré Milady, avoir eu des contacts avec un certain Bonacieux, mais qui ne la contredisent pas. Naturellement, pour corroborer l'impression de réalité, les personnages historiques feront aussi, avec l'assentiment de l'historiographie, ce qu'ils ont fait. Assiéger La Rochelle, avoir eu des relations intimes avec Anne d'Autriche, avoir eu affaire avec la Fronde. Dans ce cadre, vrai, viennent s'insérer les personnages de fiction. Cependant, ceux-ci manifestent des sentiments qui pourraient être attribués à des personnages d'autres époques. Ce que D'Artagnan fait en récupérant à Londres les bijoux de la reine, il aurait pu le faire aussi bien au XVIe qu'au XVIIIe siècle. Il n'est pas nécessaire de vivre au XVIIe pour avoir la psychologie de D'Artagnan. Par contre, dans le roman historique, il n'est pas obligatoire qu'entrent en scène des personnages reconnaissables en termes d'encyclopédie commune. Dans Les fiancés, le personnage le plus connu est le cardinal Federigo, qu'avant Manzoni, très peu de gens connaissaient. L'autre Borromée, Saint-Charles, était bien plus connu. Mais tout ce que font Renzo, Lucia ou Fra Cristoforo ne pouvait qu'être accompli dans la Lombardie du XVIIe siècle. Les agissements des personnages servent à faire mieux comprendre l'histoire, ce qui s'est passé. Et bien qu'ils soient inventés, ils en disent plus et avec une clarté sans pareille sur l'Italie de l'époque que les livres d'histoire consacrés. En ce sens, je voulais certainement écrire un roman historique. Non parce qu'Hubertin ou Michel avaient vraiment existé et disaient plus ou moins ce qu'ils avaient vraiment dit, mais parce que tout ce que disaient des personnages fictifs comme Guillaume aurait dû être dit à cette époque-là. Je ne sais pas à quel point j'ai été fidèle à ce propos. Je ne crois pas à quelque manquement de ma part quand je déguisais des citations d'auteurs postérieurs, comme Wittgenstein, en les faisant passer pour des citations de l'époque. En ce cas, je savais très bien que ce n'était pas mes médiévaux qui étaient modernes, mais plutôt les modernes qui pensaient médiéval. Pourtant, je me demande si parfois je n'ai pas prêté à mes personnages fictifs une capacité d'assembler à partir de dissiecta membra, de pensée totalement médiévale. Certaines chimères conceptuelles que, comme telles, le Moyen-Âge n'aurait pas reconnues siennes. Mais je crois qu'un roman historique doit aussi faire cela. Il doit déterminer dans le passé les causes de ce qui est advenu après, mais aussi dessiner le processus par lequel ces causes ont évolué lentement pour produire leurs effets. Si un de mes personnages, en comparant deux idées médiévales, en tire une troisième idée plus moderne, il fait exactement ce que la culture a fait par la suite. Et si personne n'a jamais écrit ce qu'il dit, il est certain que quelqu'un, fût-ce d'une façon confuse, aurait dû commencer à le penser, même sans le dire, pris par Dieu sait quelle crainte et pudeur. En tout cas, il est une chose qui m'a beaucoup amusé. Chaque fois qu'un critique ou un lecteur a écrit ou dit qu'un de mes personnages affirmait des choses trop modernes, eh bien, dans tous les cas, dans cela justement, j'avais utilisé des citations textuelles du XIVe siècle. Et il y a des pages où le lecteur a savouré comme délicieusement médiéval des attitudes que moi, je ressentais comme illégitimement modernes. C'est que chacun a sa propre idée, souvent corrompue du Moyen-Âge. Nous seuls, moines d'alors, savons la vérité. Mais la dire nous conduirait au bûcher. Pour finir, j'ai retrouvé, 2 ans après avoir écrit le roman, des notes datées de 1953. Horace et son ami font appel au comte de P pour résoudre le mystère du spectre. Comte de P, gentilhomme excentrique et flegmatique. En revanche, un jeune capitaine des gardes danoises qui use de méthodes américaines. Développement normal de l'action selon les lignes de la tragédie. Au dernier acte, le comte de P, ayant réuni sa famille, explique le mystère. L'assassin est Hamlet. Trop tard. Hamlet meurt. Des années après, j'ai découvert que Chesterton avait eu quelque part une idée de ce genre. Il paraît que le groupe de l'Oulipo a récemment construit une matrice de toutes les situations policières possibles et a trouvé qu'il reste à écrire un livre, celui où l'assassin serait le lecteur. Morale, il existe des idées obsédantes. Elles ne sont jamais personnelles. Les livres parlent entre eux et une véritable enquête policière doit prouver que les coupables, c'est nous. Umberto Eco.